Il avait raison. Jusqu'à cette nuit, je ne savais pas vraiment ce que c'était. Dans le jardin des Oliviers, la veille de mon arrestation, c'était du chagrin, de la déréliction qui m'avait valu ces larmes. À présent, je découvrais la peur. Non pas la peur de mourir, qui est la plus partagée des abstractions, mais la peur de la crucifixion, une peur très concrète. J'ai la conviction infalsifiable d'être le plus incarné des humains. Quand je m'allonge pour dormir, ce simple abandon me procure un plaisir si grand que je dois m'empêcher de gémir. Manger le plus humble brouet, boire de l'eau, même pas fraîche, m'arracherait des soupirs de volupté si je n'y mettais pas bon ordre. Il m'est déjà arrivé de pleurer de plaisir en respirant l'air du matin. La contrepartie se vérifie. La plus bénigne des rages de dents me tourmente anormalement. Je me rappelle avoir maudit mon sort pour une écharde. Je cache autant cette nature douillette que la précédente. Cela ne cadre pas avec ce que je suis censé représenter. Un malentendu de plus. En 33 ans de vie, j'ai pu le constater. La plus grande réussite de mon père, c'est l'incarnation. Qu'une puissance désincarnée ait eu l'idée d'inventer le corps demeure un gigantesque coup de génie. Comment le Créateur n'aurait-il pas été dépassé par cette création dont il ne comprenait pas l'impact? J'ai envie de dire que c'est pour cela qu'il m'a engendré. Mais ce n'est pas vrai. C'eût été un bon motif. Les humains se plaignent à raison des imperfections du corps. L'explication coule de source. Que vaudrait la maison dessinée par un architecte sans domicile? On n'excelle que dans ce dont on a la pratique quotidienne. Mon père n'a jamais eu de corps. Pour un ignorant, je trouve qu'il s'en est fabuleusement bien tiré. Ma peur de cette nuit était un vertige physique à l'idée de ce que j'allais endurer. Des suppliciés, on attend qu'ils se montrent à la hauteur. Quand ils ne hurlent pas de douleur, on parle de leur courage. Je soupçonne qu'il s'agit d'autre chose. Je verrai quoi. J'appréhendais les clous à travers mes mains et mes pieds. C'était stupide, il y aurait sûrement des souffrances beaucoup plus fortes. Mais celle-ci, au moins, je pouvais l'imaginer. Le geôlier me dit « Essaie de dormir. Demain, tu auras besoin d'être d'attaque. » Devant mon air ironique, il reprit « Ne ris pas. Il faut de la santé pour mourir. Je t'aurais prévenu. » C'est exact. En plus, c'était ma dernière occasion de dormir, moi qui aime tellement cela. J'ai essayé. Je me suis allongé sur le sol. J'ai abandonné mon corps au repos. Il n'a pas voulu de moi. Chaque fois que je fermais les yeux, au lieu du sommeil, je trouvais des images terrifiantes. Alors j'ai fait comme tout le monde. Pour lutter contre les pensées insoutenables, j'ai eu recours à d'autres pensées. J'ai revécu le premier miracle, mon préféré. J'ai constaté avec soulagement que le consternant témoignage des mariés n'avait pas terni mon souvenir. Cela n'avait pourtant pas très bien commencé. Se rendre à une noce en compagnie de sa mère, c'est une expérience pesante. Ma mère a beau être une âme pure, elle n'en reste pas moins une femme normale. Elle me regardait en coin, l'air de dire « Et toi, mon fils, qu'attends-tu pour prendre une épouse ?» J'affectais de ne pas le remarquer. Je dois avouer que je n'aime guère les mariages. Ce sentiment résiste à l'analyse. Ce genre de sacrement me remplit d'une angoisse que je comprends d'autant moins que cela ne me concerne pas. Je ne me marierai pas, et je n'en éprouve aucun regret. Cette noce était ordinaire, une fête où les gens montraient plus de joie qu'ils n'en avaient. Je savais qu'on attendait de moi quelque chose de plus. Quoi, je l'ignorais. Repas de prestige, pain et poisson grillés, vin. Le vin n'était pas fameux, mais le pain, encore chaud du four, craquait sous la dent, et les poissons idéalement salés me remplissaient de plaisir. Je mangeais dans la concentration, afin de ne rien perdre de ses saveurs et de ses consistances. Ma mère avait l'air gênée que je ne converse pas avec les convives. Pour le coup, c'est à elle que je ressemble. Elle n'est pas causante. Parler pour ne rien dire, j'en suis incapable, et elle aussi. J'éprouvais envers les mariés l'indifférence aimable que l'on a pour les amis de ses parents. Ce devait être la troisième fois que je les voyais, et, comme toujours, ils exagéraient. « Jésus, on l'a connu quand il était petit !» Et « Ça te change, la barbe !» l'excès de familiarité des humains me met un peu mal à l'aise. J'aurais préféré ne les avoir jamais vus, ces nouveaux époux. Nos relations auraient été plus vraies. Joseph me manquait. Ce brave homme qui ne parlait guère plus que ma mère et moi avait le talent de donner le change. Il écoutait les gens si fort qu'on croyait entendre sa réponse. Je n'ai pas hérité de lui cette vertu. Quand les gens parlent pour ne rien dire, je ne fais même pas semblant d'écouter. « À quoi penses-tu ?» a murmuré ma mère. « À Joseph. Pourquoi l'appelles-tu ainsi ?»« Tu sais bien. » Je n'ai jamais été sûr qu'elle sache bien, mais s'il fallait expliquer ce genre de choses à sa mère, on ne s'en sortirait pas. Un genre d'émeute a débuté. « Ils n'ont plus de vin !» a dit ma mère. « Je n'ai pas vu le problème. Qu'il n'y ait plus de cette piquette, la belle affaire. » L'eau fraîche désaltérait mieux et je continuais à manger consciencieusement. Il m'a fallu du temps pour comprendre que, pour cette famille, ce manque de vin constituait un déshonneur irréparable. « Ils n'ont plus de vin !» a répété ma mère à mon intention. Un gouffre s'est ouvert sous mes pieds. « Quelle drôle de femme, ma mère ! Elle voudrait à la fois que je sois normal, mais aussi que j'accomplisse des prodiges. » Comme j'ai été seul à cet instant. Il n'y avait plus à tergiverser. C'est alors que j'ai eu une intuition foudroyante. J'ai dit « Apportez-moi des jarres d'eau !» Le maître des lieux a ordonné qu'on m'obéisse. Un grand silence s'est installé. Si j'avais réfléchi, c'était fichu. Ce qu'il fallait, c'était le contraire d'une réflexion. Je me suis anéanti. J'ai su que le pouvoir logeait juste sous la peau et qu'on y accédait en abolissant sa pensée. J'ai donné la parole à ce que, désormais, j'appellerais l'écorce. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Pendant un temps insurmontable, j'ai cessé d'exister. Quand je suis revenu à moi, les convives s'extasiaient. « C'est le meilleur vin que l'on ait bu dans ce pays !» Chacun goûtait le vin nouveau avec le regard que l'on espérait de lui pendant les cérémonies religieuses. J'ai réprimé une colossale envie de rire. Ainsi, mon père avait jugé bon que je découvre cette puissance à l'occasion d'un manque de vin. Quel humour! Et comment le désapprouver? Quoi de plus important que le vin? J'étais homme depuis assez longtemps pour savoir que la joie ne coulait pas de source et que le très bon vin était souvent l'unique moyen de la trouver. La liesse a déboulé dans la noce. Les mariés ont enfin eu l'air heureux. La danse s'est emparée d'eux. L'esprit du vin n'a épargné personne. « Il ne faut pas servir le meilleur vin après le médiocre », ont dit des gens à leur hôte. J'atteste que ce ne fut pas dit de façon critique. D'ailleurs, le propos est très discutable. Je pense le contraire. Il vaut mieux commencer par un vin quelconque afin d'installer d'abord la joie dans le cœur. C'est quand l'homme est aussi joyeux qu'il doit l'être qu'il devient capable d'accueillir le grand vin, de lui accorder l'attention suprême qu'il mérite. C'est mon miracle préféré. Le choix n'est pas difficile, c'est l'unique miracle que j'ai aimé. Je venais de découvrir l'écorce et j'étais ébloui. La première fois que l'on fait quelque chose qui est à ce point au-dessus de soi, on oublie aussitôt la démesure de l'effort. On ne retient que l'émerveillement du résultat. Et puis, il était question de vin. C'était la fête. Par la suite, cela s'est gâté. Il a été question de souffrance, de maladie, de mort, ou d'attraper de pauvres poissons que j'aurais préféré laisser libres et vivants. Surtout, recourir au pouvoir de l'écorce en connaissance de cause s'est avéré mille fois plus dur que d'en avoir la révélation. Le pire, c'est l'attente des gens. À Cana, à part ma mère, personne n'exigeait rien de moi. Ensuite, où que je me sois rendu, on avait préparé le coup. On avait placé sur mon chemin un grabataire ou un lépreux. Accomplir un miracle, ce n'était plus offrir une grâce, c'était remplir mon devoir. Le nombre de fois où j'ai lu dans le regard de ceux qui me tendaient un moignon ou un moribond, non pas l'imploration, mais la menace. S'ils avaient osé formuler leurs pensées, c'eût été « Tu t'es rendu célèbre avec ces bêtises, maintenant tu as intérêt à assurer, sinon tu vas voir !» Il est arrivé que je n'accomplisse pas le miracle demandé, parce que je n'avais pas la force de m'anéantir pour libérer la puissance de l'écorce. la haine que cela m'a value. Par la suite, j'ai réfléchi, et je n'ai pas approuvé ces prodiges. Ils ont faussé ce que j'étais venu apporter. L'amour n'était plus gratuit. Il fallait que cela serve. Sans parler de ce que j'ai découvert ce matin lors du procès. Aucun des miraculés n'éprouve pour moi la moindre gratitude. Au contraire, ils me reprochent amèrement mes miracles. Même les époux de Cana. Je ne veux pas me souvenir de cela. Je ne veux me rappeler que la liesse de Cana, l'innocence de notre bonheur à boire ce vin venu de nulle part, la pureté de cette première ivresse. Celle-ci ne vaut que partager. Le soir de Cana, ivres, nous l'étions tous, et de la meilleure façon. Oui, ma mère était pompette, et cela lui allait bien. Depuis la mort de Joseph, je l'avais rarement vue heureuse. Ma mère dansait. J'ai dansé avec elle. Ma bonne femme de mère que j'aime tant. Mon ivresse lui disait que je l'aimais, et je sentais sa réponse que pourtant elle taisait. Mon fils, je sais qu'il y a quelque chose de spécial à ton sujet. Je me doute que ça va poser un problème un jour. Mais là, je suis juste fière de toi et heureuse de boire le bon vin que tu nous as fait avec ta magie. Ivre je l'étais ce soir-là, et cette ivresse était sainte. Avant l'incarnation, je n'avais pas de poids. Le paradoxe, c'est qu'il faut peser pour connaître la légèreté. L'ébriété délivre de la pesanteur et donne l'impression que l'on va s'envoler. L'esprit ne vole pas. Il se déplace sans obstacle. C'est très différent. Les oiseaux possèdent un corps. Leur envol relève de la conquête. Je ne le répéterai jamais assez. Avoir un corps, c'est ce qui peut arriver de mieux. Je me doute que demain je penserai le contraire, quand mon corps sera supplicié. Puis-je pour autant renier les découvertes qu'il m'a données? Les plus grandes joies de ma vie, je les ai connues par le corps. Et faut-il préciser que ni mon âme, ni mon esprit n'étaient en reste? Les miracles aussi, je les ai obtenus par le corps. Ce que j'appelle l'écorce est physique. Y avoir accès suppose l'anéantissement momentané de l'esprit. Je n'ai jamais été un autre homme que moi, mais j'ai l'intime conviction que tout un chacun possède ce pouvoir. La raison pour laquelle on y recourt si peu, c'est la terrible difficulté du mode d'emploi. Il faut du courage et de la force pour se soustraire à l'esprit. Ce n'est pas une métaphore. Quelques humains y sont arrivés avant moi, quelques humains y parviendront après moi. Ma connaissance du temps ne diffère pas de celle de mon destin. Je sais ti, j'ignore pos. Les noms appartiennent à pos. Je ne connais donc pas le nom d'un écrivain à venir qui dira « Ce qu'il y a de plus profond en l'homme, c'est la peau. » Il frôlera la révélation, mais de toute façon, même ceux qui le glorifieront ne comprendront pas le concret du propos. Ce n'est pas exactement la peau, c'est juste en dessous. Là siège la toute-puissance.